Bien bonjour à toutes et à tous. Comme chaque mercredi à 16h, vous retrouvez le magazine Lilin Info, un magazine qui vous informe de l'actualité Lilin et qui vous informe également de ce que font les partenaires de cette université et puis aussi les actions, les grandes actions autour du monde scientifique qui se réalisent notamment en région. Bienvenue dans Lilin Info sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. C'est un événement qui se déroulera du 4 au 9 juillet puisque Lille sera capitale de la chimie. Et donc, avec ce congrès organisé par la Société chimique de France et la chimie itinérante, pour nous parler de ce beau sujet, nous avons invité aujourd'hui donc Sophie Picard. Bonjour Sophie Picard.
Bonjour.
Et Christelle Pierlot. Bonjour Christelle Pierlot.
Bonjour.
Donc vous êtes maître de conférence à Lille et vous êtes impliquée dans ce processus d'organisation d'un congrès qui a lieu à Lille, à la gare Saint-Sauveur, c'est bien ça?
Alors, il y a une partie qui se déroulera à la gare Saint-Sauveur le week-end, hein, le samedi 4 et dimanche 5 juillet, donc grand public. Après, le lundi, il y aura aussi un après-midi grand public sur inscription, mais cette fois au Nouveau Siècle.
D'accord.
Et donc, le reste du congrès, ce sera vraiment pour la communauté de chimistes qui ne sera pas ouvert au grand public et donc ça se passera
à la faculté de médecine.
Très bien. Donc voilà cette grande opération, j'allais dire avant les vacances,
oui.
Qui va rassembler beaucoup de monde selon vous. Vous avez prévu déjà
Jusqu'aux dernières nouvelles, il y avait 400 inscrits.
400 inscrits.
Pour la partie scientifique.
Voilà, la partie professionnelle, on va dire. Et puis il y a la partie grand public dont on va aussi parler. Donc en fait, ce congrès 2015 de la Société chimique de France, on peut déjà expliquer ce qu'est la Société chimique de France et quel est son rapport avec l'université Lille.
Donc la Société chimique de France est une société qui regroupe à la fois des industriels, des universitaires, donc universitaires confirmés, maîtres de conférences, professeurs, chargés de recherche, mais également aussi des doctorants. Donc cette société œuvre de différentes façons. Bon, d'abord, elle subventionne beaucoup de congrès qui se déroulent dans les différentes régions de France et sur les différentes thématiques chimiques que l'on peut avoir. Une adhésion à la Société chimique de France permet de recevoir le journal mensuel qui s'appelle L'Actualité Chimique, permet de recevoir également des offres d'emploi, je pense plutôt particulièrement aux jeunes doctorants, donc pour un prix relativement modeste, disons que l'on a beaucoup d'avantages à adhérer.
Donc il s'agit d'une société nationale qui organise un congrès national à Lille. Donc ce genre de congrès se réalise tous les combien et pourquoi à Lille cette fois-ci?
Alors, ces congrès se déroulaient sur une fréquence de 4 ans à peu près. Il y a eu une période d'interruption assez longue ces dernières années. Lille a proposé sa candidature et finalement le dossier a été retenu auprès des instances nationales et nous sommes particulièrement fiers de l'accueillir cette année.
Thank you. sommes toujours avec donc Christelle Pierlot et Sophie Picard, maître de conférence à Lille, pour la présentation de ce congrès SCF, Société Chimique de France, qui aura lieu à Lille du 4 au 9 juillet 2015. Donc, pour qui et pourquoi ? Eh bien, on peut peut-être le détailler, bien sûr, au niveau des publics aussi, mais le pourquoi vient peut-être du fait d'un contexte particulier en ce moment avec ces événements à venir attendus au niveau de la COP21, de la transition énergétique. Pour vous, c'est effectivement l'occasion de montrer que vous avez des idées, voire même des solutions.
Ben en fait, il se trouve que la chimie est vraiment au cœur de pas mal de choses en ce qui concerne le développement durable, l'évolution obligatoire que voilà doit prendre nos habitudes, même les technologies, les énergies, etc. Et donc c'est vrai que ce congrès va être axé sur la chimie et les transitions énergétiques. Puisque au niveau de ce contexte, il y a une urgence, je dirais, hein, qui concerne aussi les chimistes. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de projets de recherche qui sont financés dans ce thème-là. Et ça ne concerne pas que la transition énergétique. La chimie est au cœur du développement durable pour pas mal de choses. Mais c'est vrai que la chimie est au cœur d'un grand nombre d'énergies. Et comme c'est vrai que la transition n'est pas finie, n'est pas faite, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire là-dessus.
Donc on peut citer quelques thèmes principaux qui seront abordés lors de ce congrès. Il y aura par exemple la conversion et le stockage de l'énergie. Il y aura aussi la chimie bio-inspirée, la lumière et l'énergie, je dirais l'énergie nucléaire également. Et puis, ce qui nous concerne beaucoup dans la région, tout ce qui est la culture de la biomasse.
Alors, cette biomasse, donc Sophie Picard, c'est un domaine que vous connaissez bien.
Bon, disons que c'est vrai que c'est un thème qui me tient à cœur et qui me touche au niveau je suis responsable d'une licence professionnelle axée sur la chimie et le développement durable. Et c'est vrai que je suis particulièrement spécialisée dans l'enseignement de l'utilisation des nouvelles matières premières renouvelables, donc c'est-à-dire la biomasse. C'est vrai que cette biomasse peut être... une matière première qui remplace tout ce qui est matière première fossile. Cette matière première fossile, elle sert pour une part de source d'énergie.
Alors, on peut peut-être rappeler pour le grand public ce qu'est la biomasse.
C'est-à-dire... Alors la biomasse, c'est tout ce qui est renouvelable, c'est-à-dire tout ce qui est issu, par exemple, de l'agriculture. Qu'on fait pousser volontairement, mais le problème de faire pousser volontairement des plantes et d'utiliser la partie alimentaire, c'est que le problème, c'est qu'on est en concurrence avec l'alimentaire. Le risque, c'est de, dans certaines zones du monde, c'est d'entraîner de la famine ou faire flamber parce qu'on fait flamber les prix, ou alors besoin d'étendre les zones de culture qui fait qu'il y a de la déforestation ou de la culture intensive qui fait qu'on doit utiliser beaucoup d'engrais qui polluent. C'est vrai que là, l'utilisation de la biomasse, donc ça peut être aussi tout ce qui n'est pas utilisé dans l'alimentaire, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser des graines, utiliser la tige, qui, elle, n'est pas consommée par l'homme. Ça peut être aussi des déchets de l'industrie agroalimentaire. Il y a notamment un exemple, il y a énormément de tout ce qui est déchets d'industrie agroalimentaire qui concerne les crevettes, les crabes, etc. C'est vrai que dans ces déchets-là, on peut en tirer une substance qui s'appelle la chitine, qui est une matière première qui a de nombreuses applications dans différents domaines. En cosmétique, en agriculture, dans l'épuration des eaux, dans plein de choses. Ça peut être aussi tous nos déchets verts, nos déchets, les déchets organiques. À Lille, on est la ville qui était pionnière pour pouvoir justement transformer les déchets verts des habitants, des restaurants, les restes de marché, des usines, etc., des stations d'épuration, tout ce qui est organique. Il y a possibilité de transformer tout ça en méthane grâce à des micro-organismes. Et donc, c'est vrai que la ville de Lille a fait le choix de mettre l'accent sur là-dessus, la transformation des déchets verts de la communauté urbaine de Lille, pour en faire une source de méthane, une source d'énergie qui peut remplacer le GPL, par exemple. Voilà. Mais la biomasse, c'est aussi des plantes qui peuvent être cultivées vraiment dans l'objectif de remplacer le pétrole et des plantes qui ne soient non alimentaires. Et c'est vrai que, par exemple, à l'Université de Lille, il y a un laboratoire qui dépend de l'unité de catalyse et de chimie du solide, donc notamment l'équipe Valbio, hein, valorisation de la biomasse, qui a été à la tête d'un gros projet européen qui travaille avec Total, qui vise à faire une bioraffinerie de manière à remplacer le pétrole par des plantes, et parce que c'est vrai que le pétrole ne veut pas forcément dire pénurie de pétrole, ça ne veut pas forcément dire on n'aura plus de carburant pour mettre dans nos voitures. Ça veut dire aussi, et tout ce qui est fait à base de pétrole, on doit s'en passer, c'est-à-dire les peintures, les cosmétiques, les médicaments, l'électronique, même les voitures, il n'y a pas que le carburant, hein, il y a aussi la voiture en elle-même qui est faite de pétrole.
C'est un peu dommage d'ailleurs de brûler ce pétrole un peu stupidement dans les voitures.
Ben oui, surtout qu'on sait que voilà, on en a vraiment besoin pour faire autre chose, hein, dont les médicaments, etc.
Et qu'évidemment, la ressource n'est pas renouvelable, là, pour le coup.
Non, enfin si, mais en énormément d'années.
Mais c'est ça.
Donc, à notre échelle, voilà. Donc là, en fait, voilà, il y a avec Total, par exemple, un sujet de recherche là, enfin, qui vise à créer une bioraffinerie, donc partir de la biomasse de plantes pour pouvoir justement faire des toutes petites molécules de chimie, dont des molécules qui seront destinées à l'énergie. Voilà.
Voilà, donc on imagine que toutes ces idées, toutes ces recherches ont pour objet de trouver dans un coût à définir des solutions. Alors effectivement, selon les opportunités et peut-être aussi le coût des différentes matières premières, le marché peut s'intéresser davantage à tel type de recherche.
Alors en fait, je pense qu'il n'y a pas une solution, hein, pour la transition énergétique, c'est plusieurs qui doivent être mises bout à bout. Mais pour chacune d'elles, il y a différents types d'enjeux. Hein. Il y a sur beaucoup la réduction du coût, faire beaucoup d'efforts sur l'efficacité énergétique. Donc, ensuite, au niveau du stockage de l'énergie, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup dans les énergies renouvelables que les énergies renouvelables peuvent permettre de faire de l'électricité. Donc c'est le cas des panneaux photovoltaïques, de l'éolien. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup dire aussi que l'inconvénient de ces énergies-là, c'est que c'est bien quand il y a du vent, quand il y a du soleil, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ? Sachant qu'on ne peut pas stocker l'énergie. Donc il y a aussi un enjeu qui est de travailler sur le comment stocker l'énergie. Et là, il y a des pistes, des solutions. Hein. Par exemple, transformer l'énergie du soleil, par exemple, en gaz, c'est ce qui est fait dans les piles à hydrogène, puisque le gaz, lui, on peut stocker. Il y a une réaction chimique, l'électrolyse de l'eau, qui permet, grâce à l'énergie du soleil, de transformer l'eau en dihydrogène et dioxygène, qui sont des gaz. Et quand on veut utiliser l'énergie, il suffit de les recombiner et l'énergie est restituée. Mais bon, le problème, c'est le stockage des gaz qui pose un problème de taille, puisque ces gaz prennent beaucoup de place, et de sécurité, puisque stocker de l'hydrogène, voilà. Bon, il se trouve qu'il y a aussi pas mal d'avancées dans ce domaine-là, puisqu'il y a une société, par exemple, qui a réussi à stocker l'hydrogène sous forme de galettes inoffensives et qui prennent beaucoup moins de place. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le fruit de beaucoup, beaucoup de recherches. Et c'est pas encore... Il n'y a pas encore de solution prête à sortir là. Et donc, la communauté de chimistes doit encore faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour travailler dans ce sens, quoi.
Alors, on a parlé de l'éolien, effectivement, qui, quand il n'y a pas de vent et que les villes à proximité ont besoin d'énergie, il faut remettre en route parfois des centrales thermiques.
Mais en fait, centrale thermique, centrale nucléaire, oui, bien sûr, il faut. Pour compléter. L'instant, on n'a pas de solution. En France, donc il y a l'énergie électrique provient à 75% du nucléaire, à 25% d'énergie thermique, enfin de 10% d'énergie thermique, c'est-à-dire charbon, gaz, fioul, et 15% d'énergie renouvelable, dont 12% qui concerne l'hydraulique. Mmh. Voilà. Il n'y a que 3% pour l'instant en France de solaire et d'éolien.
Bon, le modèle français est quand même assez controversé à l'étranger.
Oui, alors bon, on ne peut pas comparer les pays entre eux, puisqu'il y a des pays qui ont beaucoup d'énergie thermique. Voilà, donc ils peuvent faire sans trop de nucléaire. Alors bon, moi je ne suis pas pour dire qu'il faut du nucléaire, hein, mais je suis plutôt pour dire qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir aller vers d'autres voies efficaces, peu coûteuses, sans danger. Voilà.
C'est
ça
vrai
qui
que
est important.
Le charbon est encore utilisé dans certains pays, comme la Chine, par exemple.
Voilà, parce qu'ils ont
ils produisent
ont encore
énormément.
Voilà,
ils ont beaucoup
ça.
De réserves, et puis bon, ils polluent énormément, effectivement.
Voilà, bah après, il y a cet enjeu-là, c'est produire de l'énergie, mais en limitant l'émission de CO2. Ou alors, s'il y a émission de CO2, savoir le capter, le transformer et le valoriser autrement. Donc,
c'est
savoir
vrai que
l'utiliser.
On imagine que moins on utilise d'énergie et moins on pollue aussi. Hein. Donc, tous ces chantiers de l'ANRU, par exemple, de renouvellement du parc urbain pour améliorer l'isolation des bâtiments, c'est quand même une idée intéressante.
Oui, oui.
En Chine, c'est différent. Tous les 10 ans, on rase tout, on recommence avec des nouvelles normes. Donc, on est un peu sur des possibilités de renouvellement assez différentes. Mais la population s'est beaucoup accrue, donc avec d'autres problèmes aussi à régler.
Oui, mais c'est vrai que le bâtiment est pas mal touché hein, en ce qui concerne tout ce qui est gaspillage énergétique, etc. Il y a aussi pas mal de choses de fait. Il y a des organismes, des associations qui visent à justement faire en sorte qu'il y ait aussi une transition énergétique dans le bâtiment et inciter à faire en sorte que les nouvelles constructions soient les plus autonomes possibles en énergie.
Voilà, bon, pour le bâtiment ancien, c'est plus compliqué à parler en rue et j'essaierai d'en parler à mon propriétaire. Peut-être qu'il réécoutera l'émission avec intérêt.
C'est sûr.
Voilà, donc on va parler maintenant de la partie publique de ce congrès, donc Société Chimique de France du 4 au 9 juillet 2015. Il y a effectivement à la fois des professionnels, des étudiants, des chercheurs et puis des gens, peut-être des partenaires de ces universités qui travaillent à trouver des solutions. Et puis il y aura le grand public, puisqu'à Lille, il y a des espaces qui sont prévus avec des animations particulières. Qui veut bien aborder
ça? Oui, ces animations se dérouleront à la gare Saint-Sauveur. Donc les samedis 4 et dimanche 5 juillet de 12h à 19h, donc c'est gratuit. Il y aura la possibilité de voir une quinzaine d'expériences de chimie liées aux thématiques du congrès. Il y aura également des stands de sociétés savantes comme le CNRS, la Société Chimique de France et d'autres. Et la possibilité également de voir une voiture électrique. Alors ces expériences de chimie, bon, je vais en donner quelques-unes. Sophie parlait tout à l'heure de la recomposition de l'hydrogène et de l'oxygène pour donner de l'eau et pour donner de l'énergie. Eh bien ça, il y a un stand où on pourra voir comment on peut récupérer cette énergie, comment on peut produire de l'hydrogène, de l'oxygène par différentes façons. Bon, puisqu'on est dans le Nord, on montrera également une expérience qui permet de produire de l'électricité à partir d'une pomme de terre. Bon, on n'est pas encore au point de pouvoir se véhiculer avec une pomme de terre, mais c'est un début. Et puis, il y aura également des expériences où on essaiera de convertir l'énergie lumineuse hein, que nous envoie le soleil ou les lampes ultraviolettes pour des fins mécaniques, par exemple, ou même des fins artistiques. On pourra voir un stand également où on reprend la transformation de la betterave en alcool et on verra comment on peut tirer bénéfice de cette de cette énergie. Et puis il y aura des stands plus ludiques, comme la synthèse du savon de Marseille, des expériences sur la mousse polyuréthane qui gonfle rapidement, des petites expériences sur l'oxydoréduction, sur l'alcotest par exemple, etc. Donc ces stands seront animés à la fois par des enseignants-chercheurs d'une association qui s'appelle Chimie Société, qui est une association nationale, mais par des membres de la chimie itinérante et également par des doctorants, qui font partie des clubs jeunes de la Société Chimique de France, qui viennent de toute la France. Donc en tout, il y aura une trentaine d'animateurs pour ce week-end grand public.
Alors Christelle Pierlot, donc on a parlé de ce grand public qui va pouvoir venir. On peut donner les conditions d'accès ?
Alors pour aller à la gare Saint-Sauveur, bon, le plus simple c'est de venir, je pense, par le métro. Alors la station la plus proche,
c'est mairie de Lille.
Mairie de Lille, hein, mairie de Lille. C'est juste en face le grand parc.
Voilà. Et après c'est gratuit.
C'est gratuit. Mmh. C'est gratuit. Il y a possibilité de restauration sur place à côté du restaurant de la gare Saint-Sauveur.
Donc le 4 juillet, c'est ça ?
Le 4 et le 5 juillet. Le 5. Samedi 4 et dimanche 5, à partir de midi.
C'est vraiment grand public, hein, puisque y a certaines de ces manip-là qu'on présente dans le cadre de Chimie Itinérante, sachant que Chimie Itinérante, c'est une petite association d'enseignants-chercheurs, de doctorants, de l'UFR de chimie, et on se déplace dans les établissements scolaires, l'école primaire jusqu'au lycée, donc même ceux qui sont des jeunes enfants pourront s'y retrouver, et il y a moyen de manipuler le monde de manière ludique, donc c'est accessible vraiment au grand public.
À tout le monde, oui.
Alors pour les parents qui voudraient amener leurs enfants pour voir ce que c'est que des chimistes, pourquoi pas. Et puis pour des élèves de collège ou de lycée qui ont une réflexion aussi sur leur devenir, sur leur future carrière et déjà au préalable pour leurs études, est-ce que vous conseilleriez les métiers scientifiques et notamment de la chimie ?
C'est vrai que la chimie n'est pas morte. Hein. En plus, avec toutes ces transitions à faire, la chimie vers la chimie verte, vers le développement durable, se tourner vers des nouvelles matières premières. J'étais en discussion avec le responsable d'un pôle de compétitivité IAR qui disait qu'il y avait, des nouveaux métiers qui émergeaient. Où il fallait vraiment avoir une spécialité dans l'utilisation de la biomasse, en tout cas il y aura toujours du travail en chimie, on a besoin de chimistes. Il y a même un problème, l'Union des industries chimiques tous les ans met en avant le souci de trouver par exemple des opérateurs. On n'a pas besoin que d'opérateurs, mais c'est vrai que c'est une voie qui est...
Ces opérateurs, ils sont à quel niveau d'études ?
Après un bac pro, par exemple.
D'accord.
Voilà, ils ont un problème pour trouver ça.
Qui peut être intéressante au grand public. Hein.
Mais bon, il y a aussi besoin de techniciens, d'ingénieurs, de cadres. Donc c'est vrai qu'à tout niveau...
Ce qui permet de réfléchir à de nouveaux plans de formation, de rééquilibrage de formation dans les établissements de la région ?
Disons que l'offre de formation dans la région, elle est adaptée aux besoins justement de l'industrie chimique, etc. On évolue vers les nouvelles thématiques. Il y a pas mal de formations, par exemple, qui sont axées sur l'environnement, le développement durable, notamment à Lille 1.
Alors, la chimie, selon vous, pour les jeunes, ça représente quoi ? Un rêve ? Peut-être des craintes ? Un espoir ?
Ça dépend. Hein. Ça dépend des élèves, des étudiants. Quoi. C'est vrai que souvent, quand on sort en chimie itinérante, on voit des élèves qui ont des étincelles dans les yeux. Parce que c'est vrai que le fait de manipuler, ça peut attirer beaucoup.
Alors c'est vrai que quand j'étais jeune, on va dire, je suis encore petit, mais jeune, Il y avait une mallette qui était vraiment passionnante qui s'appelait Le Petit Chimiste. Et moi, j'avais, on va dire, 12 ans ou même avant, 10-12 ans, quoi. Je voulais absolument ça. Ma maman disait non, c'est trop dangereux. Alors, est-ce que c'est dangereux ces choses-là?
Non, si c'est vendu au grand public, non, c'est... Bon, en général, ce qu'on peut trouver dedans sont des produits soit qu'on peut trouver nous-mêmes dans la cuisine, oui. Ou bien des produits vraiment pas dangereux. Enfin, maintenant, c'est tellement strict. La chimie a énormément évolué depuis les années 80, 90, lors de la naissance de la notion de chimie verte, où maintenant, on ne peut vraiment plus faire ce qu'on veut, quoi, en chimie. Tout est contrôlé. Il faut vraiment... Il y a des métiers qui sont apparus, d'ailleurs, dans les entreprises, des responsables qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui veillent vraiment à ce que, par exemple, n'importe quel employé ne se prenne pas les pieds dans un câble, voilà. C'est pour dire que on est obligé dans les entreprises de se tenir à la rampe d'escalier parce que les accidents c'est tombé dans les escaliers. Et donc c'est pour vous dire que pour la chimie c'est encore plus strict chaque employé doit être au courant de ce qu'il manipule, avoir l'obligation de porter des équipements de protection. Donc c'est vrai que quand on fait une petite manifestation, il faut toujours prouver que ce qu'on manipule, c'est pas dangereux pour le public, etc. Enfin, c'est très strict maintenant. Donc au niveau jeu, mallette de jeu, c'est sûr et certain que c'est pas dangereux. Et c'est vrai que maintenant, la chimie, avant, quand on parle de chimie, moi souvent quand je dis je fais de la chimie, les gens font des grimaces en face de moi. Et parce que la chimie, ça a souvent... C'était souvent l'image de quelque chose qui polluait, qui était toxique, qui est dangereux pour l'environnement.
C'est sûr que c'était une réalité dans ce bassin régional. Et
tout à fait.
Avec des lourdes et très polluantes. Hein.
Voilà.
La nuit, dans le secteur du bassin minier Lensois, le ciel était jaune parfois.
Oui, c'est ça. Et donc maintenant, les entreprises sont tenues vraiment de faire en sorte que... les employés soient au maximum au courant de ce qu'ils manipulent. Si c'est pour des produits dangereux, essayer de faire en sorte qu'ils ne manipulent plus ces produits-là, mais qu'on substitue par quelque chose d'autre. Que si on ne peut pas faire autrement, qu'ils soient vraiment protégés au maximum en utilisant des équipements de protection. Que l'entreprise pollue le moins possible dans les eaux, dans les airs, dans le sol. Et puis que à tout moment, il y ait des analyses en temps réel du risque d'accident. Le moindre petit problème, tout de suite, il y a des signaux d'alarme qui fait que la personne responsable doit absolument aller voir ce qui se passe et ça limite les risques d'explosion et d'accident.
Alors effectivement, Sophie Picard, on a bien conscience qu'en France, la situation évolue. Peut-être qu'au Bangladesh, c'est différent.
Oui, c'est vrai que on est en fait en Europe, la zone qui fait le plus d'efforts, le plus d'attention justement sur l'environnement, les dangers, etc. Donc après, il faut que ça gagne les autres parties.
Donc voilà. Cette idée d'échange de communication au niveau mondial, fait qu'évidemment, comme chacun est un peu tributaire de l'autre,
oui.
Va quand même falloir s'entendre.
Oui, c'est sûr. Alors après, c'est vrai que bizarrement, j'ai entendu dire que la Chine, qui elle n'a pas de pétrole, pour pouvoir faire de la chimie, elle met les bouchées doubles pour essayer de recycler un maximum, par exemple, les sacs plastiques.
Non seulement ça, mais il y a des gens qui n'ont pas de travail, ils récupèrent les sacs plastiques et tout. Il faut voir le circuit. Hein.
Pour
énorme.
Recycler.
Et donc, ils ramènent d'énormes bâches sur des grands vélos et ils ramènent des tonnes de bouteilles, de plastique vide, qui aurait fini, on ne sait pas trop. Est-ce que vous êtes sûr que dans notre région, tout ce qu'on met à part dans les conteneurs va réellement au recyclage?
Ça dépend. C'est vrai que le problème, c'est que les entreprises de recyclage ne sont pas toutes en France, et justement, il y en a certaines qui sont en Chine. Donc il y a des polémiques là-dessus. Je pense que les efforts sont vraiment faits sur le...
Alors, pour info, en Chine, les gens qui ramènent sont payés.
Voilà, il y a aussi une limite au développement durable, parce que tout ça, ça a un coût de transport aussi pour aller jusque-là.
À vélo, ça va.
Hein. Oui, à vélo, oui. À vélo, ça va, oui, jusqu'en Chine.
Enfin, il faut le faire. Voilà, bien, on n'a pas fini, bien sûr, de trouver des problèmes à explorer et des solutions. C'est à vous de les trouver, bien sûr, pour donc cette idée aussi d'Agenda 21 qui va être aussi un peu moteur pour votre organisme, pour votre Société Chimique de France et bien sûr pour les universités, notamment de la région. Merci donc Sophie Vicard, merci Christelle Pierlot.
Merci.
Et donc bon congrès SCF 2015 et la chimie itinérante du 4 au 9 juillet à Lille.
Merci.
Merci.